Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et merci d'écouter Aligre sur le 93.1. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Version originale, comme chaque samedi à 19h. À quoi servent les poètes en des temps de détresse? S'est demandé Hölderlin. Cette question peut s'élargir à toutes les formes littéraires et artistiques. En ces temps difficiles que nous vivons, qu'est-ce qu'on peut espérer malgré tout? Qu'est-ce qu'on peut désirer malgré tout? Sur quoi peut-on s'appuyer pour générer des énergies d'espérance? On peut y réfléchir en lisant le dernier livre de Patrick Chamoiseau. Que peut littérature quand elle ne peut? Que peut littérature quand elle ne peut, paraît aux éditions du Seuil. Bonsoir Patrick Chamoiseau.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM, Patrick Chamoiseau. Vous êtes donc l'auteur d'une œuvre romanesque considérable, pour citer quelques titres, Texaco, prix Goncourt en 94, Chronique des sept misères, Biblique des derniers gestes, Le vent du nord dans les fougères glacées, qui est le dernier avant celui-là. Vous avez également écrit des essais politiques notamment, Écrire en pays dominé, Frères migrants, Manifeste avec Édouard Glissant. Parlons donc de ce dernier livre, Que peut littérature quand elle ne peut? Le titre intéressant, on va en parler. Ce texte est une version actualisée de votre discours de participation aux manifestations de Lire notre monde dans le cadre de Strasbourg, capitale mondiale du livre en 2024, auquel vous n'avez pas pu vous rendre finalement. Pour vous, Patrick Chamoiseau, quand on interroge les littératures dans leur rapport réel, aujourd'hui, il serait indécent, c'est ce que vous dites dans ce livre, de ne pas considérer toutes les oppressions. La question que vous soulevez, c'est donc l'oppression que subissent entre autres les Haïtiens, les Ukrainiens, les Palestiniens, les Kurdes, les Syriens, pour ne citer que ces peuples-là. Face à ces drames humains, que peuvent aujourd'hui la littérature et les arts? Cette question est donc l'épicentre du livre. En page 26, Patrick Chamoiseau, je vous cite « De toute mon existence, je n'ai jamais autant ressenti l'urgence de nos littératures. » Pour quelles raisons ressentez-vous cette urgence, aujourd'hui en particulier?
Oui, je la ressens parce que peut-être que je suis un petit peu moins optimiste qu'avant, je ne sais pas. Bon, moi, je ne crois pas à l'optimisme ou au pessimisme, hein. Je crois simplement au processus créatif. Si on reste créateur et créatif, on échappe au pessimisme ou à l'optimisme. La créativité est toujours un saut dans l'inconnu. Donc, d'une certaine manière, quand on saute dans l'inconnu, on y rencontre des forces nouvelles et on se confronte à du nouveau. Et on en ramène une sorte d'oxygène qui vient, qui généralement dépasse le pessimisme ou l'optimisme. Ce qui fait que les créateurs restent créateurs. Un poète, qu'il soit enchaîné ou qu'il soit au soleil, dans des conditions paradisiaques, il déploie la même sensibilité, la même acuité, la même force de pénétration quand c'est un grand poète. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a tout un monde que nous connaissions qui va disparaître, qui est en train de disparaître dans des agonies absolument effrayantes pour nous, pour de multiples raisons. C'est vrai que nous nous sommes habitués à l'ancien monde, nous pensons encore à l'ancien monde. Or, je pense qu'il faut penser au surgissement ou imaginer un autre monde, quelque chose qui ne ressemble en rien au monde qui est en train de disparaître sous nos yeux. Et c'est vrai aussi que dans les convulsions d'agonie, il y a tellement de catastrophes éthiques, tellement d'ensauvagement, tellement de barbarie qui reviennent, tellement de brutalité qui émergent, que là, ça paraît inquiétant. Et on pourrait avoir tendance à se dire, mais alors que le monde est dans cet état-là, qu'est-ce que ça veut dire que de jouer de la musique ? Qu'est-ce que ça veut dire que d'aller lire un poème ou de se réunir avec des amis pour lire des poèmes, etc., etc. Vous voyez ? Il y a, du coup, lorsqu'on est confronté à quelque chose qui fait partie d'ailleurs de l'humaine condition, dans l'humaine condition, il y a une dimension prosaïque qui est très importante et même qui est vitale. Tout ce qui est prosaïque, c'est survivre, c'est manger, c'est boire, c'est être en sécurité, etc. C'est déployer de la technique, c'est organiser la société. Enfin bon, il y a un côté pragmatique qui fait que toute vie vivante essaye de se protéger et de durer d'une certaine manière. Tout ça, c'est le prosaïque. Mais il y a une autre partie qui est le poétique, qui fait que on ne peut pas réduire l'être humain à sa partie prosaïque. Par exemple, très souvent, l'animal, l'animal est très enfermé dans son prosaïque, dans un corset d'instincts qui sont liés à la reproduction, à trouver de la nourriture, etc., se reposer. C'est très, très, très prégnant. Même si, lorsqu'on examine la vie animale, il y a quand même quelque chose de plus large que ça. Mais c'est beaucoup plus réduit. Alors que chez l'homme, une fois que le côté prosaïque est à peu près assumé, va se déployer une créativité absolument étonnante, qui vise à nourrir et à renouveler quelque chose que le Homo sapiens produit, qui est sa réalité. Et lorsque la conscience réflexive de Sapiens va surgir dans le phénomène d'hominisation, et que Sapiens, qui est un animal, devient autre chose, c'est toujours un animal, mais il y a quelque chose en plus qui survient, c'est la conscience réflexive, et la conscience de lui-même dans la totalité de l'existant, la totalité du réel. Le réel, c'est quoi ? Ce sont des mystères infinis, ce sont des phénomènes incompréhensibles, c'est le soleil, c'est le vent, c'est la puissance animale, c'est toute la splendeur du vivant, la splendeur de l'existant, etc. Donc il y a deux sentiments qui vont se déclencher chez l'Homo sapiens. Il y a le sentiment de la terreur, il est terrifié parce qu'à tout moment va surgir de ce réel l'impensable, un animal, mais ça aussi l'impensable. L'impensable majeur pour l'Homo sapiens, ça a été la mort. Essayer de donner du sens à la mort. On est vivant, puis brusquement, on meurt. En plus, on pourrit. Donc, ça a été un choc terrible pour la conscience de Sapiens. Et Sapiens, du coup, confronté à ce choc-là, a voulu donner du sens au réel, d'une certaine manière, et a simplifié le réel. Ce qui fait que l'Homo sapiens a plutôt habité des petites constructions d'imaginaires qu'il se faisait, qui ont donné les cultures, les systèmes symboliques, les religions, enfin les signes, les symboles, enfin bon, tout ce qu'on connaît. Et ces petites réalités étaient relativement confortables et bien organisées autour du prosaïque. Mais l'Homo sapiens a toujours gardé un œil sur le réel. Et l'œil qu'il gardait sur le réel, c'était un œil sur ce qu'il ne pouvait pas comprendre, ce qu'il ne pouvait pas voir et qui pourtant influençait son existence. Et c'est là que de l'autre côté de la bulle, de la petite bulle de réalité, en face du réel, Sapiens a maintenu le sorcier. Et c'est le sorcier qui va donner les artistes et qui va donner le poète. Le poète, c'est celui qui habite une langue particulière, donc une petite construction d'un groupe de sapiens, mais qui, dans cette petite construction d'un groupe de sapiens, va essayer d'exprimer, de confronter son esprit, sa sensibilité, son besoin de comprendre, etc., son besoin de vivre, donc son besoin de donner du sens à son existence. Il va le confronter à l'impensable du réel. Et du coup, la petite langue qu'il va utiliser va se retrouver confrontée à l'indicible et va se renouveler comme ça. Ce qui fait que qu'il nous faut retenir. Hein. Juste pour terminer, le poète, quand il fait un poème, c'est qu'il est confronté à quelque chose qu'il ne peut pas exprimer. Un poème exprime toujours un indicible, un impossible, un indescriptible, un impossible à formuler. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'on peut dire que le poète ou le poème ou la pensée du poème a besoin de l'impossible. Et ça, ça revient au monde actuel. Quand nous voyons le monde tel qu'il est aujourd'hui, on n'a plus de partis politiques, toutes les instances de médiation sont abîmées, on a le règne du capitalisme, on a tout le changement climatique avec toutes les catastrophes qui vont s'enchaîner. On a un basculement de l'humanité dans les systèmes urbains, enfin dans les proliférations urbaines. On a un hyper-développement écosystémique du numérique. On a le surgissement de l'intelligence artificielle et puis on a toute l'exploration du cosmos qu'on va voir. On est véritablement dans un moment qui est un vortex absolument incroyable de circonstances qui font que nous ne savons pas dans quoi nous allons vivre, ni dans quoi nos enfants vont vivre, ni nos petits-enfants, dans 10, 15, 20 ans, 50 ans. Il y a un inconnu total. Donc nous sommes confrontés à quelque chose que le poète connaît depuis longtemps, à un impensable du réel. Et c'est là que la littérature devient intéressante. C'est là que la pensée du poème, qui va générer pratiquement toutes les formes esthétiques et artistiques, nous est précieuse.
Et c'est ce que vous appelez donc, Patrick Chamoiseau, donc le poétique.
Ah oui, le poétique. Alors, si on a... Oui,
comment justement, alors c'est dans cette réalité que vous présentez comme ce que vous appelez donc prosaïque, cette vie de tous les jours où nous sommes confrontés donc à des problèmes matériels, moraux, parfois mentaux pour certains, comment justement, de façon concrète, faire intervenir, faire entrer dans son existence cette poétique, cette partie de poésie? Il n'est pas... C'est parfois une question de temps et de disponibilité. Comment faire ?
Oui, alors ça, c'est à chacun de le dire. Je crois que chacun doit d'abord comprendre le processus qui fait qu'on ne peut pas réduire sa vie à son besoin de sécurité, son besoin de manger, son besoin de confort, son besoin de... Tout le côté confortable que Sapiens déploie quand il construit des systèmes symboliques habitables. Hein, c'était ça. Et le problème, c'est que on a vu que dans l'histoire humaine, donc même dans l'histoire politique humaine, ce qu'on appelait le politique, c'est pas simplement la partie prosaïque qui est prise en main par le politique. C'est pas le boire, le manger, la sécurité, le machin, etc. C'est toute la partie qui vient avec, c'est-à-dire le bien vivre humain, l'accompagnement de l'accomplissement humain, individuel et collectif. Donc le politique, c'est très, très large. Ce qui fait que quand on voit le monde dans lequel on est plongé aujourd'hui du fait de la domination capitaliste, qu'est-ce qui s'est passé ? Le politique a été réduit au prosaïque. C'est-à-dire que la politique dans une communauté archaïque, les premières communautés anciennes, on avait l'économie. L'économie fonctionnait, le don, le contre-don, les échanges commerciaux. Il y avait un tissu économique qui était présent, mais avec d'autres valeurs. Des valeurs de solidarité, il y avait des valeurs symboliques, il y avait l'honneur, il y avait on peut imaginer tout ce qu'on... L'amitié, la danse, le bien manger, la fête, la rencontre, etc. Il y a eu toute espèce de développement, à la fois confronté à l'impensable du réel, mais aussi confronté au fait que le prosaïque ne peut pas suffire. Manger, se nourrir, c'est du prosaïque, il faut se nourrir. Mais les plats que les cultures ont développés, tous les rituels que toutes les cultures du monde ont développés autour de la nourriture, autour de l'acte de reproduction, là aussi c'est du prosaïque, on a la pulsion sexuelle qui vise à la reproduction de l'espèce, mais quand on regarde toutes les cultures de Sapiens, autour du prosaïque de la reproduction de l'espèce, on a déployé toutes les grandes perceptions de l'amour, de la passion, du sentiment, du dévouement. Enfin bon, on voit que le poétique est très lié au prosaïque. Et quand le poétique disparaît du prosaïque, on entre en enfer. On entre dans une espèce de réduction quasi animale de l'humaine condition. Et c'est ça que le capitalisme a fait du monde d'aujourd'hui. On est arrivé à une domination planétaire de l'économie sur le politique, une réduction du politique à l'économie, une prise en main de notre existence par les capitalistes, avec un dogme qui est celui du profit, de la croissance, l'accumulation et aussi le dogme de la consommation. Nous avons été réduits, nous sommes tombés au fond du prosaïque. Et quand vous voyez un personnage comme Trump, Trump c'est quoi ? Trump c'est l'expression absurde, extrême de la logique capitaliste. C'est-à-dire qu'il nous révèle ce qu'est le capitalisme aujourd'hui. C'est de la brutalité. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'humanité. Il n'y a qu'une sorte de fonctionnement lié à l'individualisme, à l'égoïsme, à la domination, à la brutalité, des choses qu'on rencontre dans le vivant. Mais même dans le vivant, quand vous voyez un écosystème vivant, il n'y a pas que la dimension agressive et solitaire. Dans le vivant, il y a toutes les formes d'association, de solidarité, de symbiose, etc. Ce qui fait qu'une fois qu'on a compris ça, nous sommes tombés au fond d'un prosaïque. Il nous faut en sortir par du poétique. Alors, pour définir le poétique, je pense que le poétique, c'est tout ce qui nous rend meilleur. Tout ce qui nous rend meilleur, tout ce qui nous ouvre à l'autre, tout ce qui nous ouvre à autre chose qu'à nous-mêmes, tout ce qui nous permet de nous accomplir de la manière la plus large possible, avec le plus d'ampleur, le plus de générosité, le plus de solidarité. C'est une capacité à s'émouvoir avec tout le vivant. C'est une capacité à être en présence de la complexité du réel et de ne pas essayer de simplifier le réel par un petit récit ou par un petit dogme. Vivre poétiquement, c'est vivre avec une espèce de grand cœur, le cœur ouvert. Vous savez, dans toutes les spiritualités, on a le mot amour. Le mot amour, l'amour. L'amour grand, l'agapé, en fait, quelque chose qui dépasse la passion amoureuse. L'agapé a disparu du politique. Hein, quand on voit l'inhumanité des politiques migratoires, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne reconnaît même pas un être humain qui vient vers un autre être humain. Donc, on a sombré dans l'inhumanité. Mais le poétique, c'est ça. C'est toute cette attitude absolument incroyable qui permet à un être humain d'être beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que lui-même et de vivre à une échelle qui est celle de la complexité du réel, avec la possibilité de rester humain lorsque l'inconcevable, l'impossible, l'imprévu ou l'impensable surgit du réel et vient renverser toutes les petites assises qu'on peut avoir dans notre vie.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon-Émile.
Patrick Chamoiseau, je rappelle le titre de votre livre, publié aux éditions du Seuil, « Que peut littérature quand elle ne peut ?» Est-ce que pour vous, là, puisque vous parlez du poétique, est-ce que la poésie, vous écrivez bien sûr donc des romans, des essais, je le disais, est-ce que la poésie est pour vous le niveau le plus puissant de l'expression littéraire?
Ah oui, oui. Pendant longtemps, je me suis cru poète. J'ai commencé par des poèmes, c'est le commencement de la littérature. Et
c'est pour ça qu'il y a une forte oralité dans votre façon d'écrire?
Oui, mais dans l'expression humaine, il y a cette confrontation au réel, au mystère inépuisable du réel. Et celui qui était confronté au mystère inépuisable du réel, c'était le sorcier, le chaman. Ce qui fait que les gestes magiques, toute la symbolique des rituels du corps, les danses, etc. Et surtout les prières, les incantations, ce sont les premiers poèmes. Et de ces incantations, cette espèce de pensée magique va générer un désir de connaissance, mais pas un désir de connaissance qui se limite aux apparences. Parce que nos cinq sens, nos petits sens humains, ne sont pas équipés pour comprendre toute la profondeur inépuisable du réel. Le réel, pour nous, reste un inatteignable, un impensable. Et pourtant, le réel, il ne cesse de nous bousculer, d'agir sur notre vie, etc. Ce qui fait que l'incantation du poème, l'incantation du sorcier va donner le poème, et le poème sera cette fenêtre qu'on va garder ouverte sur le fait que les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus vastes qu'on ne le pense. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes désespérés quand nous voyons le monde de Trump qui est en train de s'organiser, et nous avons l'impression que le monde capitaliste, que le monde de Trump, que le monde de l'économie, le monde de la consommation, le monde prosaïque, et la totalité du réel. Non, c'est une petite réalité qui a été construite par nos imaginaires, dans laquelle domine la logique capitaliste, et la logique capitaliste, dans son absurdité extrême, donne du Trump. Mais ce n'est qu'une petite réalité,
ce qui fait que elle est tellement puissante qu'elle nous empêche même de se représenter autre chose.
Ce qu'on a constaté, parce qu'on a beaucoup étudié les systèmes d'esclavagistes, les systèmes de plantation des Amériques, dans la Caraïbe, etc., Et ce qui était le plus terrible dans la domination, la déshumanisation des captifs africains, c'était qu'on leur enlevait tout le poétique humain. C'est-à-dire qu'ils étaient réduits, exactement comme le capitalisme nous a réduits à être des consommateurs et à des données économiques, l'esclave n'était plus qu'un corps. Un corps qu'on achète, un corps qu'on fouette, un corps qu'on essaie de tenir du mieux qu'on peut pour le forcer à travailler de l'aube jusqu'au soir, une réification de l'humain. Ouais, c'est terrible. C'est exactement ce que fait le capitalisme aujourd'hui. Le capitalisme s'est installé dans les souliers, je dirais, de la colonisation et a gardé l'esprit de la colonisation vis-à-vis du vivant. Quand on commence à considérer que la nature n'est quelque chose qui est en dehors de l'humain et qu'on va pouvoir exploiter, même si la planète est en train de mourir, on continue la croissance, on est dans la réification du vivant. Quand on commence à réifier le vivant, c'est normal qu'on commence à abîmer les êtres humains, à ne pas respecter les êtres humains. La brutalité de Trump devant tout ce qui est humain, devant les désastres, devant les désespérances, devant l'humanité, c'est ça. C'est de la réification du vivant au profit d'une réduction. Ce qui fait que lorsque le poète existe, lorsque la pensée du poème, c'est-à-dire cette partie poétique extrême qui habite toute réalité, lorsqu'elle s'exprime, elle nous ramène un oxygène nouveau. Ce qui fait que le poète, c'est celui qui, dans la langue, va réinventer la langue. Le poème, la pensée du poème, dans la langue, va aller au-delà de la langue, au-dessa de la langue, avant, arrière, une amplification extraordinaire de la langue. Et en faisant cela, une amplification de notre perception et une modification de nos réalités. Ce qui fait que toute la littérature qui va naître, littérature orale, et toutes les formes de narration qui vont naître ont pour origine l'extrême condition du poète. L'extrême condition du poète qui, lui, exprime l'inexprimable, se confronte à l'indicible. Et à l'autre bout de la narration, on aura le conteur. Lui, le conteur, il va fournir des récits. Et les récits vont construire de petites réalités qu'on va pouvoir habiter, des petites histoires, etc. Mais chaque fois que le poème arrive, le récit explose et il faut inventer de nouveaux récits. Alors, c'est ça la puissance du poème, son côté, je dirais, fondamental.
Restons quelques instants, Patrick Chamoiseau, sur le conteur, puisque vous avez écrit un livre, alors vous en parlez bien sûr dans celui-là, vous avez écrit un autre livre qui s'intitule « Le conteur, la nuit et le panier ». Donc, d'où viennent justement la singularité et la force de la parole du conteur ?
Alors, ce qui est intéressant dans le conteur qui apparaît dans les plantations esclavagistes, c'est qu'il se retrouve à une période qui ressemble à la nôtre, c'est-à-dire un monde ancien qui s'effondre et puis un monde nouveau qui va apparaître. Alors, quel est le monde ancien ? Le monde ancien, c'est le monde de la planète compartimentée en culture, civilisation, avec des terrains incognita, il y a des circulations commerciales, il y a déjà une économie qui existe entre toutes ces communautés, mais il y a des absolus. Hein, on est un peu enfermé dans des absolus culturels, ma langue, ma peau, mon territoire, mon dieu, mon signe, etc. Bon, toutes les cultures n'ont jamais été isolées, elles se sont toujours influencées, elles se sont toujours traversées, elles se sont toujours augmentées mutuellement, mais sur de longues plages temporelles. Ce qui va se produire quand Christophe Colomb va arriver dans les Amériques, c'est qu'il n'y aura plus le terrain incognita. C'est-à-dire que les cartes géographiques vont être complètes et l'esprit humain, Sapiens s'est toujours projeté dans la totalité de la planète, l'esprit humain peut envisager le monde dans sa globalité. Ce qui fait qu'à partir de la découverte, la prétendue découverte de Colomb, on aura le monde va faire monde. Et l'homme va habiter à une échelle, quand il va commencer à raconter des récits, à déployer son imaginaire, il ne va plus déployer son imaginaire à l'échelle de mon territoire, ma langue, mon dieu, machin. Il va de plus en plus amplifier sa perception à la totalité monde. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, on va passer à un monde globalisé. Alors malheureusement, c'est les capitalistes qui vont, c'est les colonialistes, c'est les capitalistes, et puis c'est l'économie qui vont véritablement densifier ce monde-là. Mais c'est un changement de monde. C'est un changement de monde parce qu'avec les accélérations technologiques, etc., les individus seront dépris des corsets symboliques communautaires et on va commencer à avoir une très grande mobilité à la fois des corps et des esprits. Donc un autre monde va naître. Et le monde qui va naître d'après le système des plantations esclavagistes, c'est le monde contemporain. Donc déjà, il est placé là, le compteur. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que le compteur, c'est le captif africain qui traverse l'Atlantique, donc qui va vivre la situation du bateau négrier. Dans la cale du bateau négrier, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura un effondrement de toutes ces certitudes. Lorsqu'on vit dans une communauté, on a un prêt-à-porter existentiel, on a des prières, on a des rituels, on a des symboles, on a des scarifications, on a des danses, on habite une certitude, entre guillemets. Quand on arrive dans la cale du bateau négrier, tout ça n'a aucun sens. On tombe dans une espèce de gouffre, c'est ce qu'explique Glissant. Et une fois qu'on est au fond de ce gouffre, l'existence est très 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 difficile à envisager. Et sa propre vision, la vision de soi-même, sa propre humanité devient obscure à soi-même. Ce qui fait que ceux qui vont survivre, qui vont arriver dans les plantations où ils seront mis en esclavage, vont devoir réinventer leur humanité. Ils sont complètement désemparés. Et en plus, ce n'est pas des cultures entières qui arrivent. C'est des mélanges de cultures, des mélanges de langues. L'Afrique n'existe pas à l'époque. L'Afrique, c'est une infinie possibilité, une infinie diversité. Il y a des Afriques. Et ces Afriques vont se retrouver en miettes dans le système des plantations. Et ce sont ces miettes qui vont devoir renaître. Et ils vont renaître avec quoi ? Non pas avec des mémoires collectives bien établies, des rituels. Hein. Ils vont renaître avec des traces, ce qui va rester dans leur corps et de leur esprit de la communauté ancienne. Ce qui fait qu'on aura ces traces culturelles africaines vont partir en dérive, en composition, en synthèse, en rupture et en surgissement, avec des traces amérindiennes, avec les traces européennes, occidentales, et avec les traces de toutes les immigrations qui vont se faire là par la suite. Ce qui fait qu'on arrive à un moment où on a un surgissement anthropologique dans les Amériques qui est composé pratiquement du mélange des traces de toutes les cultures, de toutes les civilisations, et ça va produire une vision nouvelle, une conscience nouvelle, une manière d'habiter le monde qui sera complètement différente. Et c'est ça que Glissant va appeler la relation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette exigence de la relation. Ce qui fait que, quand le conteur va parler, ce n'est pas un griot qui parle. Le griot, quand il parlait dans la communauté archaïque, il était inscrit dans un prêt-à-porter, une explication du monde communautaire. Il assumait une archive mémorielle ancestrale millénaire. Il répondait à un besoin social. Quand le conteur va se lever, qu'est-ce qui va se lever ? C'est un individu. Un individu qui a quelques traces de ce qui lui reste de l'Afrique. Sans doute, il a peut-être été griot, ou son père a été griot, peu importe. Mais il se lève avec des traces et il n'a pas de prêt-à-porter existentiel, donc il n'a pas de partition. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va improviser sa parole. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'a pas de langue, il n'a plus de langue. La langue ancienne africaine ne fonctionne pas dans la plantation. Ce qui fonctionne dans la plantation, c'est la langue de l'esclavage. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va prendre la langue de l'esclavage, il va précipiter la langue de l'esclavage dans un processus créatif, créateur, et la langue va devenir autre chose, va devenir un outil d'affirmation, non seulement de résistance, mais de réhumanisation. Et ça, c'est intéressant. Ce qui fait que, dans le compteur, la nuit et le panier, j'ai été fouillé dans la boîte à outils du compteur. Parce que je me dis, si ce type est dans une période aussi désespérante que la nôtre, il faut imaginer que c'est comme si le maître de la plantation, c'est 1000 fois pire que Trump. Quoi, Et la nuit plantationnaire, c'est la nuit capitaliste. Hein, on est à peu près dans des choses similaires. Je dis, si ce type a réussi, par le simple fait de sa parole, à soulever, du fait de la puissance de la créativité, de la pensée et du poème, il précipite dans la langue de l'esclavage des capacités créatrices totales. Il restitue un acte d'autorité parce que dès qu'on on récupère la capacité d'être créateur, on installe une autorité intérieure, une sorte de verticalité, intime qui fait qu'on n'est plus esclave de rien du tout. Et il va communiquer ça à tous ceux qui ont un désir de renaître. Et c'est pourquoi c'est la parole du conteur qui va nourrir les marronnages, qui va nourrir les incendies, qui va nourrir les empoisonnements de bêtes, qui va insidieusement, c'est-à-dire sans que le maître ne se rende compte que là, il a l'impression qu'on a quelqu'un qui raconte des histoires tigeant l'horizon, etc. Il dit « Ah ouais, c'est bien. »
Il laissait faire.
C'est-à-dire qu'il y a la dimension plaisir divertissement qui existe comme dans toutes les formes d'art. Mais le maître est incapable de voir que là, on a un processus créatif-créateur qui va restituer un banc d'humanité là où il n'y avait plus d'humanité.
Patrick Chamoiseau est notre invité jusqu'à 20h sur Aligre FM. Je rappelle le titre de votre livre « Que peut littérature quand elle ne peut ?» Ça paraît donc aux éditions du Seuil.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious, the women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit what happens to the heart. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble, it was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle, the devil's got a harp. Every soul is like a minnow, every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little what happens to the heart. Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing what happens to the heart. Working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? ¶¶
father's 303, I fought for something final. Not the right to disagree.
Leonard Cohen, Happens to the Heart sur Aligre FM. Vous êtes dans version originale. Je reçois Patrick Chamoiseau qui publie aux éditions du Seuil Que peut littérature quand elle ne peut ? Vous prenez position, Patrick Chamoiseau, sur les grands problèmes d'aujourd'hui. Vous avez publié donc des essais, des articles de journaux pour exprimer vos sentiments à l'égard de réalités que vous jugez tout à fait injustes. Récemment, en Martinique, on a vu des manifestations de protestation contre la vie chère, les produits alimentaires étant beaucoup plus chers que sur cette île que dans l'Hexagone. Pour lutter contre les inégalités persistantes dans les sociétés ultramarines, Patrick Chamoiseau, à quoi faut-il s'attaquer en priorité d'après vous ?
Ah oui, la vie chère n'est qu'un élément, oui. Qu'un symptôme d'un phénomène beaucoup plus vaste que j'ai exploré poétiquement dans un livre qui s'appelle « Faire pays », qui est disponible un peu sur toutes les possibilités de vente. Et j'explique comment ce qu'on appelle outre-mer, c'est en fait une sorte de corset dans lequel on a enfermé, en tout cas on a nié l'existence de peuples-nations qui ont surgi justement de la créolisation, c'est-à-dire tous ces peuples amérindiens, européens, africains, enfin tous ces êtres humains qui se sont retrouvés fracassés ensemble dans l'inhumain de l'esclavage, la colonisation et après du système capitaliste, on produit. Il fallait bien exister. Quand le compteur commence à parler, il devient le plus puissant producteur des cultures populaires. Toutes les cultures populaires qui vont apparaître dans la Caraïbe, dans l'Amérique des plantations et même dans les Amériques tout court, ce sont des phénomènes qui viennent de cette rencontre plantationnaire et de cette rencontre de la colonisation. Enfin, rencontre, disons contact, parce qu'il n'y a pas eu rencontre, il y a eu contact, mais il n'y a pas eu rencontre. Et c'est cette complexité-là qui fait qu'au moment des indépendances, on a essayé, nous n'avons pas accédé aux indépendances, tous les pays qu'on appelle outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, enfin bon, il y a toute une liste, tous ces pays-là n'ont pas pu accéder au processus de décolonisation, parce que le processus de décolonisation était basé sur un imaginaire, l'ordre ancien du monde. Alors c'est quoi l'ordre ancien du monde ? C'était les peuples ataviques. Donc on a les Occidentaux qui se jettent sur le monde et ils rencontrent des peuples ataviques, c'est-à-dire des peuples qui ont des traditions, des millénaires, de langues, de dieux, des couches épaisses, enfin bon, vraiment des atavismes qui se perdent dans la nuit des temps. Ce qui fait que quand ces peuples vont résister à cette conquête et à cette domination, ils vont essayer d'aller chercher tout ce qui existait avant le colon. C'est-à-dire ma langue, mon Dieu, mes dieux, mes langues, enfin bon, ma langue contre ta langue, enfin toute la verticalité occidentale va se retrouver confrontée à d'autres verticalités qui vont être construites à partir des cultures qui ont précédé, des situations humaines qui ont précédé l'arrivée des colonialistes. Nous, on a essayé de faire pareil, mais le problème, c'est qu'on est né dans la colonisation. C'est-à-dire que ceux qui étaient là avant nous...
Quand vous dites « nous », on a essayé de faire pareil, c'est qui ce « nous » ?
C'est-à-dire tous les... Lorsque dans les années 50-60, Fanon, la pensée de Fanon, Fanon martiniquais, toute la pensée qu'il va déployer vient de la situation caribéenne. Et les nègres marrons, tout ça, c'est le début d'un processus de réhumanisation. Le compteur, une production culturelle de résistance, il y a un fond d'un esprit de résistance et de réexistence et de réenchantement de l'existence dans les cultures populaires des Caraïbes et des Amériques. Donc ça va donner très rapidement aussi, non seulement des nègres marrons, mais aussi des indépendantistes, des anticolonialistes, etc., etc. Mais la manière d'aborder le phénomène de la libération, sur quelle base on contestait la domination du colon, il impose sa langue, il impose son histoire, il impose sa culture, il impose sa blancheur, il impose, etc. Et les autres, ils répondaient avec leur épaisseur et leur profondeur. Mais nous, le problème, c'est qu'on était nés dans ce contact entre les Amérindiens, les Européens, les Africains et toutes les immigrations. Ce qui fait que moi, qui suis martiniquais, j'ai des ancêtres amérindiens, ancêtres africains, ancêtres... Le colon fait partie des ancêtres. Et puis après, d'une manière générale, presque toutes les immigrations qui vont traverser, qui vont s'élancer vers les Amériques. Et cette complexité-là, elle n'était pas pensable à l'époque. Elle n'était pas pensable parce que, comme dans la colonisation et dans la domination, on n'avait que des absolus, c'est ma langue contre ta langue. D'ailleurs, les colonialistes, ils passaient leur temps à parler d'universel, de civilisation, de développement. Mais universel, ça veut dire, c'est, à l'époque, ça voulait dire universel, ce sont les valeurs, la culture, la langue.
Mon universel à moi.
Mon universel à moi. L'universel avait tendance à exclure les obscurités qui n'étaient pas occidentales. Et on est embarqué de ça. C'est-à-dire que je me rappelle dans mon enfance, il n'y avait pas un lettré, un homme de l'élite ou une femme de l'élite qui ne disait qui recourir à l'universel. Malheureusement, cet universel devenait très rapidement occidental. Civilisation. Ils ont parlé de civilisation, les civilisations humaines, mais ils ont hiérarchisé tout de suite les civilisations. Et le mot civilisation est devenu le modèle occidental qu'il fallait appliquer. Bon, on est rentré dans cette logique-là. Ce qui fait que les décolonisations qui se sont produites dans les années 50, etc., ont bien sûr récupéré une certaine possibilité d'action de la part des peuples ataviques, mais à laisser l'ordre du monde en place. C'est-à-dire la vision du monde, le capitalisme s'est installé, et ces décolonisations n'ont pas éliminé la domination occidentale. Au contraire, on a eu toutes ces fêtes des indépendances, il y a eu de beaux textes d'ailleurs, le soleil des indépendances, etc. Et une fois que toutes ces indépendances se sont réalisées, ben, le modèle de domination occidentale s'est installée sur ces prétendues indépendances qui n'étaient pas des indépendances parce qu'elles reproduisaient simplement le schéma profond de la domination planétaire qui allait se mettre en place. Donc là aussi, même les peuples ataviques n'ont pas pensé le monde, n'ont pas pensé la nouvelle complexité du monde. Et nous, c'était pire parce que nous, on avait une complexité composite. Le colon faisait partie de nous. On était né dans la rencontre, le contact brutal entre toutes ces cultures et ces civilisations.
En fait, c'est-à-dire que les structures sociales d'une société, par exemple, comme la société martiniquaise, sont encore celles d'il y a 200 ans.
Non, il y a des choses qui ont changé. Disons qu'il y a une matrice coloniale qui perdure. Dans la matrice coloniale qui perdure, d'abord, il y a la négation de l'existence de peuple-nation. Circuler, il n'y a rien à voir. Maintenant, on commence à reconnaître qu'il y a une culture, on accepte l'idée que la langue créole est une langue, etc. Mais ces peuples ne sont pas reconnus en tant que tels parce qu'ils n'ont aucun emblème. D'ailleurs, on se bat pour avoir un certain nombre d'emblèmes, etc. Sans vouloir reprendre le modèle État-nation occidental, mais on se dit que l'existence d'une communauté, elle doit être ritualisée pour elle-même par un certain nombre de signes, de gestes, de symboles, de chants, etc. Donc, il faut mettre ça en place. La matrice coloniale, c'est négation de ces peuples-là qui n'ont aucun pouvoir politique. Déresponsabilisation politique de ces peuples-nations. Ils n'ont pas d'expression politique, c'est-à-dire ils n'ont pas de prise sur leur devenir humain, c'est-à-dire le devenir de leur bien-être. Ils n'ont aucune prise politique. Il y a des compétences, il y a des délégations.
Vous aviez d'ailleurs écrit un article dans Le Monde, c'est en 2022. Le titre de cet article, c'était « L'outre-mer, nation sans État ».
Oui, des peuples-nations sans État. Donc, il y a des peuples-nations, il y a des surgissements anthropologiques complexes, qui c'est pas toute Afrique ou tout Amérindien ou tout ceci ou tout cela, comme les colonialistes ont tendance à se penser, mais c'est un mélange qu'il fallait explorer, c'est le mélange de la créolisation. D'ailleurs, toute l'œuvre de Glissant, c'est comprendre ce que ça veut dire que d'être en même temps Amérindien, Africain, Européen, c'est quoi, c'est comment on vit ça, qu'est-ce que ça signifie. Enfin bon, il fallait penser ça. On ne pouvait pas le faire à l'époque de la décolonisation. Maintenant, nous devons émerger dans la complexité du monde relationnel, il nous faut penser tout cela. Ce qui fait que la matrice coloniale, peuple-nation niée, une constitution française qui ne reconnaît qu'un peuple français, tout le reste c'est des populations, donc il y a un problème, donc il faut changer la constitution française. Un peuple qui n'a pas de dispositif symbolique pour exprimer ce qu'il est, donc du coup son imagination, son imaginaire est brimé, sa créativité, donc processus de dépendance d'assistanat, et puis à côté de ça, on est passé de la situation esclavagiste à la situation non esclavagiste, une sorte de situation coloniale de notre genre, sans qu'il y ait de réforme agraire. C'est-à-dire que la structure agraire de possession des terres et des outils de production par les colons est restée intacte. Ils ont même le plus souvent été indemnisés. Ce qui fait que ceux qui dominent aujourd'hui l'économie, même s'ils ne sont pas des descendants directs, se sont installés dans la matrice coloniale telle qu'elle était au départ, tant territoriale qu'infrastructurelle. Et c'est eux qui continuent le même principe avec quelque chose qui est terrible, pas seulement au niveau des infrastructures, mais avec l'esprit esclavagiste. C'est-à-dire, l'esprit esclavagiste, c'est le racisme qui est fondateur. Le racisme de type américain, c'est un racisme... l'esclavage de type américain invente le racisme, invente le nègre. Le fait que le phénotype nègre sera le plus déprécié dans toutes les cultures du monde, ça naît là, quand la traite devient industrielle et qu'il faut justifier ce qu'on fait à des millions d'êtres humains. Donc on a inventé le racisme.
Le racisme, oui.
Et tout le monde a intériorisé. Donc ceux qui aujourd'hui ont pris le relais qu'on appelle chez nous les béquets, ont adopté, ont assumé, ont prolongé ce fait-là. Comment ils l'ont prolongé? Par le fait, le plus souvent, qu'ils vivent dans une sorte d'apartheid silencieux, en se mariant d'abord entre eux et ensuite en restant dans une pratique racialisée de leur organisation sociale. Donc, ça fait une matrice coloniale résiduelle. Ce n'est pas la proto-colonisation. Il y a des interactions, etc. Mais il y a un résidu colonial, ce que les décoloniaux appellent une colonialité. Je déteste ces termes-là, mais enfin bon, il y a un résidu colonial qui existe, dont il faut se débarrasser. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le capitalisme. Le capitalisme a pris le relais de l'esclavagisme, du colon, et puis ils se sont installés. Et qu'est-ce qui a permis l'émergence du capitalisme industriel en Occident? C'est l'incroyable accumulation de capitaux qui a pu se faire sur l'exploitation de millions et de millions d'Africains qui ont construit les Amériques et qui ont fourni au monde des matériaux, de la matière et des trucs incroyables. Donc le capitalisme s'est installé. Ce qui fait que chez nous, aux Antilles, quand on dit outre-mer, on a une vieille matrice coloniale complètement archaïque dans laquelle s'est organisée une sorte de déshumanisation capitaliste, c'est-à-dire un fonctionnement, un dogme capitaliste. Le dogme capitaliste, c'est le profit à tout prix, c'est réduire la vie humaine à l'économie, c'est réduire l'économie à la consommation, etc., etc. C'est tout ce que nous constatons. Ce qui fait que ce qu'on appelle la vie chère, c'est vraiment un résidu, vraiment très, 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 très ténu d'un système qu'il faut absolument envisager et penser autrement. Et c'est là que nous avons besoin de stimulation esthétique et artistique.
Est-ce qu'elles existent, justement? Est-ce qu'il y a
aujourd'hui pour l'instant
des forces capables, justement, comme vous dites, de faire surgir?
C'est inaudible. C'est... Moi, je me souviens quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'étais un anticolonialiste, je commençais, quand Césaire a créé un festival culturel à Fort-de-France. Tous les mois de juillet, un festival culturel. C'était très théâtre. À l'époque, c'était le théâtre qui dominait l'expression culturelle. Mais quand j'allais au théâtre, j'étais en prise avec l'urgence de l'époque. L'urgence de l'époque, c'était la décolonisation. Moi, chaque année, pendant des années, j'ai vécu un théâtre anticolonialiste. Le monde était considéré dans ses structures profondes et il y avait une contestation qui était portée par des poèmes, par des pièces de théâtre, par des interventions artistiques. Je suis devenu anticolonialiste par le culturel. Et ma vision du monde a été forgée grâce à ces stimulations artistiques et esthétiques qui n'étaient pas des affrontements directs avec les CRS. C'était simplement des créateurs qui nous apprenaient à regarder les forces actives dans le monde et à la reconsidérer, à essayer d'imaginer un autre monde. Aujourd'hui, quand vous voyez les festivals culturels dans ce qu'on appelle l'outre-mer, ben, ça ne dit rien. C'est des agencements de danse, de musique, c'est des soirées très snob de jazz, enfin bon, des choses qui n'ont pas grand intérêt, mais qui ne provoquent pas cette nouvelle vision du monde dont nous avons besoin. Et c'est vrai que c'est difficile à faire. C'est très difficile. Pourquoi ? Parce que le monde a changé. Le monde est devenu une dynamique relationnelle. Dans une dynamique relationnelle où on doit exister individuellement, se construire soi-même, son architecture de principes et de valeurs, se réaliser non pas à une échelle ma langue, mon identité, etc., mais dans un mouvement permanent de rencontre avec la diversité du monde, avec la complexité du monde, avec le processus inarrêtable de transformation qui est lié aux accélérations technologiques, avec la virtualisation qui s'annonce dans le numérique et avec la confrontation avec l'intelligence artificielle, c'est ça que nos enfants devraient rencontrer quand ils vont au cinéma, quand ils vont voir une pièce de théâtre, quand ils vont, etc., etc. Et ça... c'est pas perçu. Ce qui fait que la problématique fondamentale de notre humanisation pour les 50 ans à venir n'est pas traitée le plus souvent par le problème culturel. Et l'autre problème que nous avons, qui est très profond et sur lequel on n'a pas encore beaucoup de réponses, c'est que la culture est devenue un objet de consommation. Pourquoi elle devient un objet de consommation ? C'est-à-dire que quand la culture devient un objet de consommation, ça veut dire que il n'y a pas de stimulation artistique et esthétique profonde qui va modifier votre perception du monde et votre perception de vous-même. Pourquoi il n'y a pas cette déflagration ? C'est que nous sommes enfermés dans le prosaïque. Tout le monde a intériorisé le fait que nous sommes, que l'économie est fondamentale, qu'il faut avoir du pouvoir d'achat, que si, etc., etc. Nous sommes refermés sur le prosaïque et nous avons perdu l'état poétique. L'état poétique, c'est cette ouverture de la sensibilité, cette ouverture du cœur sur la capacité à se mettre en face de la complexité et à, en face de cette complexité, être capable de recevoir des chocs de stimulation qui vous permettent de recomposer un monde, de prolonger votre langue, d'amplifier votre vision des choses, de créer, de devenir créateur. Mais... ce qui fait que quand vous êtes enfermé dans le prosaïque, comme nous sommes enfermés dans le prosaïque, vous pouvez aller voir 10 000 expositions, voire 200 000 films, et voir toutes les pièces de théâtre que vous voulez. Il n'y a pas de stimulation, il n'y a que de la consommation culturelle. Et ça, c'est stérile. Mais... dans l'outre-mer, ce qu'on appelle l'outre-mer, il faut essayer de trouver un autre mot. Il n'y a pas de stimulation esthétique et culturelle qui soit adaptée au fait que nous devons apprendre à vivre et à construire notre présence collective dans un monde devenu relationnel. C'est très difficile.
Mais Patrick Chaboiseau, puisque, comme vous dites, nous sommes enfermés dans ce modèle-là, mis en place, d'une certaine façon verrouillé par ce qu'on appelle le système capitaliste et néolibéral, vous semblez... même si on comprend, on a saisi la piste que vous nous proposez, l'ouverture vers laquelle vous nous invitez, mais ça paraît difficile justement à mettre en place finalement. Oui. Vous semblez reconnaître
que c'est d'abord, ce n'est pas verrouillé. C'est pas verrouillé. Le capitalisme, ce qui caractérise la domination actuelle, c'est qu'elle se fait par l'imaginaire. Personne n'a le sentiment qu'on est enfermé. On n'est pas comme des esclaves dans la plantation. On n'est pas fouetté. Quand on se comporte en consommateur, pour nous, le pouvoir d'achat, la consommation...
La réalité, mais en plus, l'imaginaire. Vous voulez dire qu'on pense que...
Nous avons intériorisé. Oui. On l'a vu d'ailleurs dans les plantations esclavagistes. Tous les esclaves n'étaient pas nègres marrons. Les nègres marrons n'étaient pas les plus nombreux.
Alors, intériorisé... Le nègre marron, c'est celui qui fuit à les plantations.
Celui qui refuse de manière ouverte le truc. Et ça. Il s'en va, il sort son coup de clard, et puis bon... Mais ce n'est pas les plus nombreux. Nos ancêtres sont restés dans la plantation. Et ils avaient intériorisé le fait qu'ils n'étaient pas vraiment des hommes. C'est ça le truc. À des intensités plus ou moins fortes selon les individus, puisque nous sommes dans des réalités individuelles. Hein. On n'est pas dans un bloc communautaire. Donc on aura l'esclave désespéré qui a tellement intériorisé son inhumanité qu'il va se suicider. Après, on aura le fameux oncle Tom qui sera complètement servile. Et puis, on aura celui qui dit oui quand même, qui accepte, mais qui en même temps se révolte, qui va empoisonner les bêtes, qui va incendier les champs, qui va casser les outils, qui va traîner les pieds au travail. On a toute la gamme de comportements. Et puis, on aura, bien sûr, les créateurs. Et c'est là que la réhumanisation va commencer. Créer, ça veut dire quoi ? Créer, ça veut dire... que je ne m'enferme pas dans la petite réalité qui m'est imposée. Là, c'était la petite réalité colonialo-esclavagiste, avec ses forces, ses symboles, son beau, son juste, son vrai. Le créateur, lui, comme il est un créateur, sa pensée se remet en mouvement et il fait ce que Deleuze a appelé des lignes de fuite, des réagencements. Il va décomposer la réalité qui lui est imposée pour produire des visions nouvelles. C'est ce que va faire le tambourier, c'est ce que va faire le danseur, c'est ce que va faire le chanteur et ce que va faire, bien sûr, le maître, le grand poète des plantations qui va être le conteur. Ils vont amplifier la vision de ces personnes qui avaient intériorisé une petite réalité qui les condamnait pour leur dire non, ne vous laissez pas enfermer dans ça, il y a plus large, le réel est plus large, il y a d'autres possibilités. Et c'est cette dynamique créative qui va alimenter le marronnage du corps, donc le negmaron qui part, et aussi marronnage de l'esprit, la puissance de création.
Patrick Chambrezeau, notre discussion aurait pu se prolonger encore toute la soirée. Merci beaucoup d'être venu nous rendre.
Oui, il ne faut pas que parler, il faut lire aussi. On peut lire les livres.
Bien sûr, je rappelle en tout cas le titre de votre dernier livre, « Que peut littérature quand elle ne peut ?» C'est publié aux éditions du Seuil, et puisqu'on a évoqué bien sûr le conteur et le livre précédent, donc le conteur, la nuit et le panier également aux éditions du Seuil. Merci infiniment.
Merci.
D'être venu nous voir à l'IGRFM. Je remercie Armand Gury et Philippe Donnefort qui étaient à la technique ce soir. Dans un instant, vous retrouverez Dance Reggae Vibes, et à 22h30, c'est Audiométrique. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h pour une nouvelle édition de Version Originale. D'ici là, passez un bon week-end et une bonne semaine. À samedi prochain.
Version Originale. Patrick, Léon Émile. Yeah. Yeah.
Yeah. Got me waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster sent us the corner hugger. Seeing this nigga shining and knowing me like a motherfucker. This buster owe me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cockroaches like Tony, got Montana motors. Newport 100 dipping fluid, yo, I had to smoke it. Pupils dilated like silver dollars, now we know it. Call it devilish how I do biz. Fuck these niggas talking, I leave their thoughts on my shoestrings. What? Straight to that FNH is what I'm holding. A buster that we know got 15 bowls, bust it open. We came bandana up, divided up, now what's the quotient? I split with four niggas since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'ma murk the whole litter. Told my girl to leave as soon as I hung up the phone with her. Man, I heard you robbed the robbers, look Freddy, a cold nigga. Got an ice maker for a heart, made nigga from the start. Life is like a movie, all I did was play my fucking part. Jeffing up the crack, the heroin, the weed, out the car. I call it Fast Freddy's, I should own a fucking restaurant. Cause back when I was 12, threw some bells on the scale, then I got a pager. We broke them down and started selling nickels to the neighbors. Eventually the penitentiary gon' see me later. Kiss my mama, told her if I died and it was part of nature. What? My bitch half Mexican, Afghan, I'm blessed. From living tough times with rough levers, a gorgeous watch. A team on a dreadful level, yo. Yeah, we still.
Vous écoutez à l'IGRFM 93.1.